Bonjour! Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants, Urbania et sélection du Reader's Digest. Au programme, sommes-nous lassés de podcasts? Et comment apaiser l'anxiété? Bonne écoute!
Sommes-nous lassés des podcasts? Un texte de Malia Kunku, paru le 17 février 2023 dans Urbania. Si mes journées possédaient une bande sonore, elle serait majoritairement composée des podcasts qui rythment ma vie. Dans le métro, je laisse les récits à deux voix de passage me bercer. En rangeant mon appartement, les questionnements d'Anything Goes portés par la youtubeuse Emma Chamberlain font passer le temps plus vite. Lorsque je voyage, je télécharge juste assez d'épisodes de « Are we still friends? » pour rire sur le trajet. Et avant de dormir, il m'arrive d'écouter un ou deux épisodes du balado d'histoire criminelle « Serial ». Quitte à faire ensuite des cauchemars, autant connaître d'avance leur scénario. Bien que ce format audio ne date pas d'hier, son âge d'or, lui, ne montre aucun signe d'affaiblissement. Avec le temps, les podcasts ont même appris à épouser la forme parfaite de notre quotidien, transcendant le territoire du simple divertissement pour toucher à celui de l'éducation, du documentaire, du coaching et même du sommeil. Vive les podcasts ASMR! C'est bien simple. Tant qu'il y aura des sujets à creuser, il y aura un public qui suivra. Mais il semblerait que le vent tourne ces derniers temps et que l'auditoire, autrefois si friand d'anecdotes et de discussions, commence à s'en désintéresser. Une lassitude encore légère, mais bel et bien palpable, tel le calme avant la tempête. Phase passagère ou mort lente du podcast? Explorons ensemble ce phénomène. Les graines de la discorde. On devine souvent un trend qui s'essouffle au même qui encercle son cercueil. Les premiers que j'ai vus émerger concernant le podcast restaient toutefois de l'ordre gentillet du running gag. Ici, l'humour reposait principalement sur le fait que le monde entier ait fini par succomber à l'appel du microphone, tout domaine de carrière confondu, nos artistes préférés, les créateurs, créatrices de contenu sur nos fils Instagram, nos présidents, présidentes et ministres, nos chauffeurs, chauffeuses Uber et même notre propre petit frère passionné de Fortnite. Puis, des blagues inoffensives. Nous sommes passés au rire anxieux et pour cause. Chaque jour, un podcast naît et une demi-heure dans notre agenda meurt. Après cela, comment trouver encore du temps pour tout écouter, surtout lorsqu'il nous reste encore à rattraper 26 épisodes de 3 émissions différentes? 27 maintenant. Un nouveau podcast a éclos durant cette question. Et enfin, le dernier palier, celui de l'agacement réel. Certes, l'offre est grande, mais est-elle pour autant pertinente? Pour beaucoup d'auditeurs, d'auditrices blasées, les thèmes se ressemblent, les discussions tournent en rond et leur raisonnement sonne creux. La montée exponentielle des podcasts ne semble plus motivée que par l'amour de sa propre voix, rien d'autre. Et à ce stade, le verdict semble aussi là qu'irrévocable. Il y a bien trop de podcasts sur cette planète polluée. Couru d'avance, cet agacement était inévitable. À vrai dire, surtout au regard des statistiques. En 2020, soit au cœur de la pandémie, pas moins de 70 000 podcasts par semaine voyaient le jour. Et en janvier 2023, les dernières statistiques comptabilisaient plus de 5 millions de podcasts pour environ 465 millions d'adeptes. Des chiffres élevés qu'une facilité de production explique. Si vous avez un téléphone et du Wi-Fi, vous avez essentiellement une émission. Peu étonnant donc que cette activité à faible budget continue d'attirer du monde et qu'à la longue, les sujets finissent par empiéter les uns sur les autres jusqu'au soupir collectif. Sans compter que le format passe-partout du podcast lui permet de rassembler en son sein le meilleur des mondes. Il est plus concis qu'une conversation, plus détaillé qu'un bulletin d'information, plus multitâche-friendly qu'une vidéo YouTube et plus intimiste qu'une série télévisée. Là encore, chacun et chacune peut y trouver son compte. Vous écoutez? Sommes-nous lassés des podcasts? Un texte de Malia Kunku paru le 17 février 2023 dans Urbania. Et la surabondance du catalogue joue paradoxalement un rôle très positif ici. En effet, quel est l'avantage premier d'un marché saturé? Le fait qu'absolument tout puisse y être trouvé, même les intérêts les plus obscurs. Si vous vous sentez donc seul, parce qu'aucune âme autour de vous ne partage votre amour débordant pour Denzel Washington ou pour le monde des furies, n'ayez crainte. Plusieurs podcasts dédiés à ces deux domaines spécifiques vous attendent déjà à bras ouverts. Plusieurs personnes peuvent aussi traiter un même sujet différemment, ce qui contribue à la richesse du genre. Ce n'est d'ailleurs pas anodin que les podcasts s'organisent de plus en plus autour du profil qui les porte plutôt que d'un thème particulier. Ce qui nous pousse à cliquer et à nous abonner relève bien plus souvent d'une affinité pour l'animateur, l'animatrice et son style de discussion qu'autre chose. En d'autres termes, je donnerais plus facilement sa chance à un podcast de crypto animé par Grimes que par Elon Musk. Et puis, attendez, on ne dit jamais qu'il y a trop de vidéos du même type sur YouTube. Pourtant, combien de reprises de Wonderwall peuvent y être trouvés. À la dérive. Reste que dans certains recoins de l'Internet, la réputation des podcasts est en chute libre véritable. Cette mauvaise image est en grande partie alimentée par les extraits chocs de balado que les algorithmes poussent de manière systématique dans les fils d'actualité TikTok, Instagram ou Twitter. La conséquence pour ceux et celles qui, chaque jour, voient ces extraits confrontants circuler sur leurs écrans est qu'ils et elles finissent par penser que les podcasts ne sont finalement que cela, un vecteur d'idées répréhensibles. Parmi ces séquences fréquemment virales figurerait celle de Fresh and Fit, ce podcast américain masculiniste et pro-Andrew Tate, dans lequel est prêché que plus une femme est enceinte, plus une femme perd de sa valeur. Il y aurait aussi ce balado qu'on ne présente plus, The Joe Rogan Experience, au micro duquel l'universitaire canadien Jordan Peterson, invité de passage, qualifie la transidentité de « contagion sociologique » comparable aux abus rituels sataniques présumés qui ont émergé dans les garderies dans les années 1980. Un troisième exemple serait l'extrait de Tonight's Conversation, où un nouvel invité, manifestement possédé par l'esprit de Leonardo DiCaprio, affirme préférer les femmes plus jeunes, car plus influençables. On s'entend que le format podcast n'a pas inventé la transphobie, la misogynie et encore moins la culture du grooming. On s'entend aussi que ce type de discours alarmant peut se retrouver à peu près partout, sur YouTube, dans un tweet, sur un live Facebook ou même dans un souper de famille. Ici, l'enjeu se situe donc plus au niveau de l'accessibilité et la rapide propagation de tels discours. Hélas, il s'agit là des deux points forts d'un podcast. Il est facile à faire et encore plus facile à promouvoir un seul teaser polémique jeté à l'aveugle sur les réseaux sociaux suffisant à récolter la viralité que l'émission recherche. Et si son contenu en dit juste assez pour ne pas enfreindre les conditions générales d'utilisation de sa plateforme support, mais suffisamment pour continuer à agiter négativement les foules, le succès est alors assuré. Un cycle toxique qui semble malheureusement bien parti pour durer. Cela nous permet toutefois de conclure sur une réalisation importante. Depuis le départ, ce vent de lassitude n'est pas dirigé vers le balado en lui-même, mais plutôt vers ses usages. Si le genre dans son ensemble était la racine du problème, Il serait éteint depuis 2019, lorsque le New York Times se demandait déjà s'il n'existait pas trop de programmes. Mais nous sommes en 2023 et le podcast est toujours là, solide sur ses deux jambes, prêt à nous rappeler que, dans toutes ses unicités, ses répétitions et ses dérives, il faut de tout pour faire un monde. C'était « Sommes-nous lassés des podcasts ?» un texte de Malia Kunku, paru le 17 février 2023 dans Urbania.
Comment apaiser l'anxiété? Un texte de Rebecca Phillips avec la collaboration de Lucy Uppritchard et de Jeanne Moncada, paru le 25 août 2022 dans le magazine Sélection du Reader Digest. Nous sommes tous sujets à des crises d'inquiétude. Comment savoir si le problème est grave et s'il faut se faire aider? Voici comment apaiser l'anxiété. Il y a 8 ans, victime de pensées obsédantes, d'apathie et d'insomnie, Sue Thomas a compris qu'elle ne s'en sortirait pas sans aide. À 66 ans, elle était fonctionnaire au NHS, le service de la santé publique britannique, dans le sud de l'Angleterre. Pour remédier à ce qu'elle prenait pour une dépression, elle a fait appel à différentes techniques comme les thérapies comportementales et cognitives, TCC. C'est ainsi qu'on lui a diagnostiqué un trouble anxieux. En mettant un nom sur le tourbillon d'émotions qui l'assaillait, elle s'est rendue compte qu'elle tentait l'impossible pour dissimuler ses symptômes, surtout au travail. Hantée par la peur de ne pas être à la hauteur, « je m'arrangeais pour faire bonne figure », explique-t-elle. Pour ça, oui, je mériterais un prix. Son expérience et ses compétences n'empêchaient pas Sue de douter de la qualité de son travail. Le soir, son esprit s'emballait, elle ne pouvait se reposer. Le jour, des pensées négatives la hantaient, accompagnées de nombreux symptômes comme les nausées et les acouphènes. Je découvrais la nature très physique de l'anxiété, reconnaît-elle. Ce sont souvent ces manifestations corporelles des émotions qui convainquent les patients qu'ils ont besoin d'aide. Sue est l'une des quelques 300 millions de personnes dans le monde victimes de troubles anxieux. L'anxiété touche chacun de nous à des degrés variables. Elle est le plus souvent intermittente et surgit après un événement stressant ou traumatique. Elle peut aussi survenir dans des situations quotidiennes et sans risque. Cette forme d'anxiété est pathologique. L'anxiété chronique mine l'organisme. L'anxiété fait partie de notre système de réaction au stress. Il s'agit d'une réponse émotionnelle à une menace anticipée. Autrement dit, nous craignons qu'il nous arrive quelque chose. Parfois, des éléments tangibles nous le font croire. Parfois, il n'y en a pas. Lorsqu'une crise se manifeste, elle s'accompagne souvent de nombreux signes physiques, note le docteur Olivier Dubois, psychiatre directeur du Centre thermal et des cliniques de Saujon et de l'École thermale du stress. Le système nerveux sympathique, responsable des fonctions involontaires comme la respiration et les battements du cœur, se met en état d'alerte maximale. Les glandes surrénales libèrent de l'adrénaline et du cortisol, deux hormones qui activent la réponse au stress. Le rythme cardiaque augmente, la tension artérielle s'élève, les pupilles se dilatent, le souffle est plus court et la peau moite. En parallèle, Le cortisol met en sommeil les fonctions que le cerveau ne juge pas essentielles à la survie. Il module les réponses du système immunitaire et inhibe les mécanismes physiologiques de la digestion, de la reproduction et de la croissance afin de conserver toute son énergie pour faire face aux risques. Tout cela était utile à nos ancêtres qui devaient échapper aux prédateurs, mais beaucoup moins quand votre angoisse est due à la crainte d'être contaminé par le client qui tousse derrière vous au supermarché. Dans ces crises, l'anticipation du risque joue un rôle majeur, ajoute le docteur Dubois. Une situation vous paraîtra menaçante, même si elle ne l'est pas, et vous déploierez des trésors d'imagination pour y échapper. Vous serez obsédé par des stratégies d'évitement ou par des plans de fuite. Vous serez indécis par crainte de prendre la mauvaise décision, ou au contraire agité, remonté, incapable de vous détendre. Normalement, ces symptômes s'apaisent dès que la situation qui vous met en émoi s'éloigne. Ainsi, si l'idée de prendre l'avion vous rend nerveux, ce sentiment se dissipe aussitôt que les roues se posent sur la piste. L'anxiété peut néanmoins devenir chronique et se transformer en trouble anxieux généralisé, TAG, trouble panique, trouble obsessionnel compulsif, TOC, syndrome de stress post-traumatique ou phobie. La différence entre l'anxiété circonstancielle déclenchée par un facteur de stress transitoire et l'anxiété relevant du trouble anxieux n'est pas toujours évidente. Il est normal de se sentir anxieux, mais quand l'anxiété envahit au quotidien et vous empêche de profiter de la vie, il est important de demander de l'aide. Si, par exemple, vous avez tellement peur de l'avion que vous ne partez plus en vacances, il est temps de consulter. Il en va de même si vous constatez que l'anxiété dure au-delà de la résolution du problème et qu'elle semble même augmenter d'une fois à l'autre. Traitez l'anxiété quand elle persiste. Il existe des traitements efficaces de l'anxiété, qu'ils soient médicamenteux ou psychothérapiques. Plutôt que de se soigner, de nombreux patients vont tenter soit de dominer leur anxiété, soit de la fuir, indique le docteur Dubois. Mais en essayant de neutraliser l'anxiété, vous risquez plutôt de lui faire toute la place dans vos pensées, et en la fuyant, vous ne réglez rien. Voici quelques conseils pour réduire les effets négatifs de l'anxiété. L'accepter. Admettre que l'anxiété fait partie de la vie de chacun permet de l'accueillir avec une certaine bienveillance, voire avec humour. C'est la pierre angulaire de la thérapie d'acceptation et d'engagement, ACT. Cette forme de TCC repose sur deux concepts clés. Accepter ce qu'on ne peut pas contrôler et s'engager dans une action qui enrichit notre vie. Les praticiens encouragent ainsi les patients à entreprendre un dialogue avec leurs pensées anxieuses, à se pencher sur leurs causes et à ne pas perdre de vue leurs objectifs de vie et leurs valeurs personnelles. Le patient prisonnier de ses angoisses apprend peu à peu à redevenir maître de son existence et de ses actions. Poursuivons la lecture du texte « Comment apaiser l'anxiété ». Un texte de Rebecca Phelps avec la collaboration de Lucy Opritchard et de Jeanne Moncada, paru le 25 août 2022 dans le magazine Sélection du Reader Digest. Se montrer curieux. Parallèlement à l'acceptation, il est bon de prendre pleine conscience de son anxiété, surtout si les idées envahissantes empêchent de penser rationnellement. Un moyen efficace consiste à porter son attention sur les sensations corporelles, les pensées et les émotions consécutives à notre anxiété. Observer et nommer les sensations physiques. Je rougis, j'ai la respiration courte, mon cœur bat plus vite, est alors déjà une première étape dans l'affranchissement des réactions anxieuses. Il existe de nombreuses applications numériques pour s'entraîner à la pleine conscience. elles aident à mieux vivre les manifestations de l'anxiété. Pratiquez-la quotidiennement et ainsi vous serez mieux préparé à affronter les crises. C'est en étant plus consciente des effets de l'anxiété dans sa vie que Sue Thomas a pu reconnaître le mouvement envahissant des inquiétudes et des pensées obsédantes. Quand cela se produit, plutôt que d'être pétrifié par le stress ou de surcharger son esprit de pensées au point de ne plus pouvoir se concentrer, elle prend du recul et se recentre sur le moment présent. Adapter son mode de vie. La fatigue et l'augmentation du stress nous rendent plus vulnérables à l'anxiété. Un régime équilibré, un sommeil réparateur et, par-dessus tout, la pratique sportive aide à y faire face. Une étude a montré qu'un entraînement régulier et vigoureux réduisait de 25 % le risque de troubles anxieux au cours des 5 années suivantes. La marche nordique est une technique efficace pour redonner du dynamisme, ajoute le docteur Dubois. Elle stimule la fabrication d'endorphines par le cerveau et contribue à un sentiment de bien-être. Privilégier un entourage bienveillant. L'affection protège des effets du stress, écrit le docteur Philippe Rodet, médecin urgentiste français et auteur de nombreux ouvrages sur la bienveillance. L'explication est simple. Il existe une relation inverse entre le taux d'ocytocine dans le sang, hormone du bonheur, et le cortisol, hormone du stress. Une étude menée en Suisse par l'équipe du professeur Beat Ditson de l'Université de Zurich conclut que plus le taux d'ocytocine est élevé, plus celui de cortisol est bas, dit le médecin. L'équipe suisse a également montré que chez les sujets qui reçoivent beaucoup d'affection, le taux de cortisol diminue. Tenter une cure thermale. Plusieurs centres thermaux ont mis au point des cures pour les patients souffrant d'un trouble anxieux généralisé, TAG. Ces cures reposent à la fois sur la présence de certains oligo-éléments comme le magnésium ou le lithium dans l'eau thermale, mais aussi et surtout sur la prise en charge et l'accompagnement pendant la cure, sport, alimentation, repos, atelier. La cure en elle-même est bénéfique pour le sommeil, explique le docteur Dubois. Cela aide à rompre le cercle vicieux insomnie, fatigue, anxiété. Les curistes apprennent également de nombreuses techniques pour se réapproprier leur corps et leurs sensations, relaxation, méditation. Pendant 3 semaines, le patient va lâcher prise, souligne le psychiatre. Son processus d'auto-alimentation du stress chronique se bloque suffisamment longtemps pour que les crises ne redémarrent pas quand il rentre chez lui. Sue Thomas prend un traitement pharmacologique pour mieux maîtriser son anxiété et ses douleurs chroniques. En plus de pratiquer la pleine conscience et la méditation, elle suit des cours de peinture et de dessin. Elle administre par ailleurs une plateforme où les membres partagent leurs expériences et se soutiennent en période de stress. Cet esprit de solidarité couplé aux techniques d'ACT mentionnées plus haut ont contribué à sa guérison. L'anxiété a cessé de prendre le dessus, se félicite-t-elle. Il m'arrive encore d'en éprouver, mais ça va, ça fait partie de moi. La médication peut aider. En raison de la stigmatisation des psychotropes, beaucoup écartent l'idée de prendre un médicament contre l'anxiété. Ceux qui en souffrent craignent parfois l'accoutumance ou d'être jugés faibles ou handicapés. En réalité, les traitements pharmacologiques des troubles de l'anxiété proposés aujourd'hui sont plus sûrs et ont moins d'effets secondaires qu'il y a 30 ans. L'attitude face à la maladie mentale a également évolué. Une étude publiée en 2013 dans The British Journal of Psychiatry a révélé que près de 80 % des adultes jugeaient la maladie mentale comme un problème de santé comme les autres, et 85 % considéraient important de lutter contre sa stigmatisation. Si vous envisagez la médication, votre médecin pourra vous prescrire celle qui est le mieux adaptée à votre situation. Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS, sont de bons médicaments pour démarrer un traitement contre de nombreuses formes d'anxiété. La sérotonine est un neurotransmetteur qui intervient dans le sentiment de bien-être et de bonheur, en plus d'agir sur la pensée, la mémoire, le sommeil, la digestion et la circulation. Les ISRS élèvent le niveau de sérotonine dans le cerveau et, en plus d'être sûrs, leur usage à long terme n'entraîne pas de dépendance. À plus court terme, on envisagera les benzodiazépines comme le Xanax, qui potentialise l'effet du GABA, un neurotransmetteur inhibiteur, autrement dit qui freine la transmission des signaux nerveux. Les benzodiazépines agissent rapidement et ne restent pas longtemps dans l'organisme. Ils peuvent cependant créer une dépendance et sont considérés comme dangereux dans un usage continu. Pour Jean Lally, psychothérapeute à Édimbourg, en Écosse, les médicaments associés à une thérapie sont une bonne approche de soins, surtout chez les personnes qui souffrent d'une forme d'anxiété plus grave. Pour entreprendre une thérapie, il faut une bonne santé cognitive et la médication aide à l'entretenir, explique-t-elle. Elle soulage des symptômes et accroît la concentration. Les deux fonctionnent très bien ensemble. C'était « Comment apaiser l'anxiété », un texte de Rebecca Phillips avec la collaboration de Lucy Opritchard et de Jeanne Moncada, paru le 25 août 2022 dans le magazine Sélection du Reader Digest.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Robert Chartier à la lecture, Nicolas Zortman à la recherche, à la présentation et au montage.